Bonsoir. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a remis hier mercredi aux délégués du FCC et des CASH les chronogrammes pour la formation du prochain gouvernement de la République ainsi que le fil conducteur pour la désignation des ministrables. Parmi les critères que fixe le Premier ministre figurent la compétence et l'absence de condamnations judiciaires fermes à l'RDC ou à l'étranger. Les délégués du groupe politique ont jusque dimanche 11 août pour remettre au Premier ministre les projets des listes des candidats membres du gouvernement. Quelle lecture faire de ces consultations? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous avons dans cette émission Dieudonné Mwenze, il est député national honoraire et membre du conseil national du PPRD. Il est aussi communicateur du Front commun pour le Congo, le FCC. Bonsoir, monsieur Dieudonné Mwenze.
Bonsoir Monsieur Guy Maté, bonsoir à vos nombreux auditeurs de Okapi.
Maître Gabin Loulendou, il est avocat et porte-parole adjoint de l'UNC, membre de la coalition CAP vers les changements CASH en sigle. Bonsoir Maître Gabin Loulendou.
Bonsoir Monsieur Guy Matondo, bonsoir à vos nombreux auditeurs.
Et professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, il est aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir professeur Bob Kabamba.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
La coalition CASH-FCC ne dispose que de quelques jours jusque dimanche 11 août pour le dépôt auprès du Premier ministre des projets des listes des candidats membres du gouvernement. C'est selon le chronogramme que Ilunga Ilunkamba a présenté et remis hier mercredi aux deux forces politiques. Ceci en plus du fil conducteur pour désigner les potentiels ministres du futur gouvernement. Parmi les critères que fixe Ilunga Ilunkamba figure l'absence de condamnations judiciaires fermes en RDC et à l'étranger. Les détails avec Billy Ivan Lutumba.
Dans ses principes directeurs, le chronogramme indique que le gouvernement de la République a pour objectif essentiel de conjuguer les efforts de la coalition CASH-FCC pour mobiliser les ressources publiques et autres afin de les affecter pour améliorer les conditions de vie des grands nombres des citoyens congolais. Quant aux critères, le Premier ministre préfère travailler avec des personnes qui adhèrent au code de conduite du gouvernement de la République, qui ont de la compétence, l'intégrité et la capacité de travailler en équipe. Le choix des ministrables doit doser entre anciennes, nouvelles figures et générations montantes. Il doit également veiller à la représentativité significative, genre, à l'équilibre géopolitique et sans omettre les personnes vivant avec handicap. Il faudra par ailleurs prévoir dans le choix la signature d'un contrat de performance entre le ministre titulaire et le Premier ministre et aussi tenir compte de la capacité à travailler sous l'autorité du Premier ministre. La coalition doit présenter 3 candidats par poste ministériel par ordre de préférence avec le CV. Pour rappel, les forces vives de la nation, parmi lesquelles les confessions religieuses et la FEC, seront consultées le vendredi 19 août.
Merci à vous, Billy Ivan Lutumba. Dieudonné Mwenze, je rappelle que vous êtes député national honoraire et membre du conseil national du PPRD et aussi communicateur du Front commun pour le Congo FCC. Les consultations formelles pour la formation du gouvernement sont en cours depuis hier. Quel est le sens que vous donnez à cette étape du processus de la formation du gouvernement, monsieur Dieudonné Mwenze?
Monsieur Guimaté, je crois que ce qui s'est fait depuis hier est une suite logique de ce qui avait été promis lorsque les négociateurs ont dû remettre au Premier ministre les conclusions de leurs négociations. Il avait été promis qu'après le travail de négociation, le Premier ministre qui recevra les conclusions prendra le travail en main pour qu'il puisse réellement commencer les consultations telles que prévues par la Constitution. Et je crois que le Premier ministre avait également promis de commencer ce travail incessamment. Et je crois que c'est ce qui a commencé depuis hier. Vous avez vu toutes les délégations devant le Premier ministre pour lancer officiellement ces consultations. Donc pour nous, la lecture que l'on peut faire, c'est que il s'agit de ce travail qui était attendu par nombreux de nos populations, nombreuses de nos populations, qui pensaient qu'il en était un peu temps pour que l'on puisse passer à l'essentiel et que l'on puisse doter la République de son gouvernement responsable, capable de pouvoir répondre aux nombreuses préoccupations de cette population. Donc nous sommes là pratiquement dans une phase décisive, c'est-à-dire la phase qui permet au Premier ministre de s'acquitter de cette obligation constitutionnelle et de pouvoir présenter son projet de gouvernement au président de la République, qui l'attend d'ailleurs, et même le Premier ministre l'a dit, qu'ils étaient tous deux, lui et le Premier et le président de la République, talonnés par le temps. C'est pour cela que les différentes familles politiques, notamment l'EFCC et le CACH, sont en train de travailler d'arrache-pied pour qu'au plus tard dimanche, ils soient en mesure de proposer à chaque portefeuille ministériel
un
nom tel que recommandé par le fil conducteur. Et le chronogramme est clair, tout se passe normalement, mais j'ai regretté par le fait que l'avant-midi aujourd'hui, je n'ai pas été informé suffisamment du programme qui avait été prévu, c'est-à-dire de recevoir le CACH et puis après le FCC. Mais je crois que ça va être fait d'un moment à l'autre, pour que nous soyons dans le délai et que nous puissions rapidement répondre à cette exigence de notre population.
Dieu de Mwenze, à cette occasion, le Premier ministre a présenté au chef des délégations, la délégation CACH et celle du FCC, un critérium auquel tous les potentiels candidats doivent répondre. Avez-vous été surpris par ces fils conducteurs du Premier ministre? Ou c'est quelque chose qui était prévu lors des négociations, parce que vous avez dit que l'étape actuelle fait suite, n'est-ce pas, aux conclusions qui ont été convenues entre les deux délégations.
Non, monsieur Guimaté, nous n'avons pas été surpris par ces deux documents qui avaient été présentés aux deux délégations, notamment le chronogramme d'activité. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque l'on appelle les gens pour une consultation, il faut leur présenter un chronogramme. Nous l'avons vu, mais également le fil conducteur pour la désignation de ce que l'on appelle aujourd'hui les ministrables pour le futur gouvernement de la République. Donc nous n'avons pas été surpris, et d'ailleurs parmi les 10 points figurant au fil conducteur, nombreux de points sont ceux-là sur lesquels nous revenions plusieurs fois, moi personnellement, sur les antennes de votre radio, pour dire qu'il nous faut réellement des gens compétents, des gens qui sont intègres et qui ont la capacité de travailler en équipe, et des gens qui ne se reprochent de rien. Donc je crois que c'est ce que nous disons tous les jours, c'est ce qui arrive aujourd'hui.
Voilà.
Donc les 10 points ont été notés, et nos familles politiques respectives travaillent sur base de ces 10 points qui, à mon humble avis, sont convenables. Mais nombreux voulaient même que l'on aille au-delà de ces 10 points. Bon, mais que voulez-vous, je crois qu'il y a d'autres points qui pourront peut-être utilisés dans le cadre de tamisage ou d'appréciation des différentes candidatures qui pourront être présentées au Premier ministre et au Président de la République. C'est pour cela qu'il a été demandé 3 noms. Je crois que les 3 noms ne passent pas comme une lettre à la poste. Et on a besoin d'un seul nom sur chaque portefeuille ministériel, chaque poste. Donc, il y aura aussi des critères qui vont pouvoir militer, peut-être selon la discrétion du Premier ministre et du Président de la République, et pour pouvoir retenir un parmi les 3 qui seront proposés sur chaque poste ministériel. Vous dites que nous pensons qu'il faut que nos familles facilitent la tâche au Premier ministre et au Président de la République et que nous puissions aller à l'essentiel rapidement.
Voilà, vous dites que les 10 critères sont convenables, et donc vous voulez dire qu'aucun de ces critères n'est généré le FCC?
Non, il n'y a aucun critère qui générait le FCC. Nous sommes beaucoup plus à l'aise, M. Guimaté. Je crois que c'est une occasion de préciser et d'apaiser l'opinion, puisque nous avons aussi entendu ça dans certains salons IP de Kinshasa. Certains dire tel critère pourrait gêner le FCC. Je vous assure et je vous rassure que l'OFCC est à l'aise avec les 10 critères. Et d'ailleurs, je vous dis que certains voulaient qu'on aille même au-delà. Certains ne sont pas nécessairement d'ailleurs. Ce sont aussi des OFCC qui pensaient qu'il fallait aller au-delà de ces 10 critères.
Et quelle est la place?
Ces 10 critères nous mettent à l'aise, même si on pouvait en ajouter 2-3 autres, ou même ceux qui pourront être utilisés comme critères du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État ou du Premier ministre. Ce sont des critères qui ne vont pas gêner l'OFCC, pas du tout vraiment.
Didier Le Moinzé, quelle est la place que vous allez réserver à l'AFDCA débattre le Kouébo, d'autant plus que non seulement ces regroupements politiques se réclament de la majorité parlementaire, mais également il a un poids politique considérable, n'est-ce pas?
Non, je crois qu'il faut préciser d'abord que les négociations ont été faites entre deux grandes familles politiques, le FCC et le CASH, et que les négociateurs ont fait la répartition sur base de ces deux grandes familles politiques. Il n'y a pas eu, je parle bien au niveau des négociations, il n'y a pas eu un poste réservé à un regroupement politique et encore moins à un parti politique. Donc même moi du PPRD, je peux bien le dire, même mon co-débatteur Maître Gabin va aussi l'avouer, que les négociateurs n'ont pas prévu de postes ou de postes de responsabilité au parti politique ou au regroupement politique. Même l'UMC d'emblée n'a pas déjà de quotas prévus. Donc il faut aussi conclure que l'AFDCA n'a pas de quotas à ce jour qui étaient déterminés au niveau des négociations avec les négociateurs, bien sûr. Bon, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, puisque la question concerne beaucoup plus le FCC? Je peux vous avouer qu'au sein du FCC, il y a des camarades qui se réclament de l'AFDC et alliés. Ça, d'abord, il faut le retenir.
Okay.
Mais il y a à côté de cela d'autres camarades qui étaient avec nous hier, qui ont voulu suivre le camarade Bass qui a été suspendu.
Voilà, on va revenir sur la question.
Les camarades qui sont allés avec lui ont voulu accompagner le camarade Bass dans sa sanction. Donc, l'accompagner dans sa sanction, ça veut dire qu'il faut partager avec lui le bien et le mal qui pourrait lui arriver. Donc ça, ce n'est pas un problème.
Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi?
FCC, il y a un regroupement qui s'appelle
AFDC
et alliés, aujourd'hui conduit par l'honorable Néné Ilunga.
Okay.
Je crois que c'est connu de tous.
On va y revenir.
Au sein du FCC,
on va vous redonner la parole, Monsieur Dieudonné Mondé. Maître Gabin Loulendou, vous êtes avocat et porte-parole adjoint de l'UNC, membre de la coalition Cap vers les changements CASH en sigle. Le Premier ministre a entamé des consultations formelles depuis hier pour la formation du gouvernement. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une simple formalité, étant donné que tout avait déjà été, n'est-ce pas, décidé lors des négociations entre les deux forces politiques?
Bon, mais c'est l'occasion de souligner, de montrer la particularité ou la singularité de la politique congolaise. Parce qu'en principe, le Premier ministre devrait intervenir une fois qu'il a été nommé par l'ordonnance du chef de l'État pour commencer à organiser les choses. Mais vous voyez que le contexte politique qui est le nôtre, c'est d'abord les plateformes politiques, à savoir les FCC et les CASH, qui ont dû finalement trouver un compromis, et qu'aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas, en tout cas, beaucoup de marges de manœuvre, pour ne pas dire pas de marges de manœuvre du tout. C'est ça la particularité de la politique congolaise. On ne peut pas ne pas souligner cette particularité-là, et c'est ce qui a pu se faire, même si nous devons maintenant de plus en plus aller vers la normalité, dans la mesure où, lorsque le Premier ministre est désigné, celui qui, d'une façon générale, commence les consultations pour la formation du gouvernement. Aujourd'hui, les consultations qui vont commencer, c'est tout simplement la formalité, dans la mesure où le Premier ministre n'a pas, lui, le droit de pouvoir exclure les gens qui vont être désignés par les partis, les plateformes. Encore que si les choses s'étaient passées comme elles se devaient, eh ben on n'en arriverait pas là. Mais cela étant, le plus important aujourd'hui, c'est qu'avec les consultations qui ont commencé hier, on peut chacun de nous se rendre compte que la mise en place du gouvernement attendu est là, parce qu'effectivement, les gens s'interrogeaient, mais à quand le gouvernement? Là, le signal fort avait été donné par ce travail qui y a commencé, par les délais qui a été communiqué et aussi les délais qui a été indiqué pour la transmission des propositions des membres du gouvernement à son Excellence Monsieur le Président de la République. Là, il ne laisse aucun doute qu'effectivement la mise en place du gouvernement est très proche et je pense que si tout va bien, peut-être que avant la fin de la semaine prochaine, le gouvernement sera mis en place ou peut-être l'autre semaine qui suivra, on ne sait pas parce que de toutes les façons, j'ai toujours dit que le président de la République n'est pas la machine à signer. Il lui appartiendra de regarder de près comment les choses ont dû se présenter et usant également de son pouvoir discrétionnaire, il peut réserver une fin de non-recevoir à tel nom ou tel autre nom.
Maître Gabin,
oui.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que, avec tout ce qui s'est passé, les négociations qui ont pris plus de 7 mois, et aujourd'hui le Premier ministre, n'est-ce pas, s'est saisi de ces dossiers, on ne peut pas dire que le Premier ministre est en train de gérer un dossier dont il ne comprend ni les tenants et les aboutissants?
Bon, mais je ne peux pas aller jusqu'à affirmer ça, encore que c'est une affirmation gratuite en disant que les négociations ont commencé il y a 7 mois. Déjà, le président de la République a prêté serment le 24 janvier de l'année en cours. Quand vous prenez 24 janvier de l'année en cours à aujourd'hui, le président a 6 mois au pouvoir. Donc, les négociations n'ont pas commencé d'ailleurs à la prestation des serments du président de la République. Les négociations ont commencé un peu plus tard. Donc, c'est exagéré. C'est vrai qu'on dit que le gouvernement n'est pas en place depuis 6 mois parce qu'on part de la date de la prestation des serments. Encore que j'ai toujours démontré que même s'il y avait toute la bonne volonté du monde de pouvoir mettre en place un gouvernement un mois ou en tout cas 2 semaines après la prestation des serments du président de la République, institutionnellement parlant, cela poserait des problèmes parce que il y a également des mécanismes institutionnels pour la constitution du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Or, justement, l'investiture du gouvernement, le gouvernement peut être mis en place, mais
Maître Gabin, Gabin, la question que j'ai posée, c'est celle de savoir est-ce que le Premier ministre n'est pas en train de gérer un dossier qu'il ne maîtrise pas?
Bon, mais c'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne pense pas qu'il va gérer un dossier qu'il ne maîtrise pas. Il connaît tous les acteurs, aussi bien du FCC que du cash, qui vont être présentés, en tout cas plus ou moins, parce que c'est quelqu'un qui est dans la vie politique, la vie nationale, ça fait pas mal d'années. Quand vous regardez son âge, c'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Donc, du coup, il connaît les acteurs. Sûrement qu'il y a eu, bien évidemment, des contacts informels, des discussions informelles, mais hier, ça a été, en tout cas, des discussions formelles, des consultations formelles pour la constitution du gouvernement.
Et quelle est votre lecture par rapport à cette question des critères auxquels tous les candidats doivent répondre?
D'abord, je salue les faits que je peux dire, sauf si ma mémoire me trahissait. C'est quand même une bonne chose qu'un Premier ministre soit là et qu'il fixe les critères pour faire partie du prochain gouvernement, parce qu'effectivement, nous avons toujours pensé que ces pays, le développement socio-économique de ces pays ne sera nullement l'œuvre d'une génération spontanée, mais des gens conscients de leurs responsabilités, des gens qui ont des compétences, des gens qui ont l'intégrité pour arriver à atteindre le résultat du changement, parce que le peuple aspire au changement. Alors donc, du fait qu'on ait fixé les critères, c'est déjà une très bonne chose, ça montre qu'effectivement on tient à la qualité. Mais ce qu'il faut dire au sujet de ces critères, à titre personnel, moi j'ai quand même un problème avec le premier critère, qui consiste à dire n'est pas faire l'objet des condamnations judiciaires fermes en RDC ou à l'étranger. J'ai l'impression que ces critères me semblent être subjectifs parce que, à mon sens, ils viseraient pratiquement des gens de l'opposition qui avaient été arrêtés, qui pourraient faire partie du gouvernement. C'est pratiquement le fait de les empêcher d'accéder au gouvernement. Or, des mesures de décrispation politique ont été prises, parce qu'effectivement, on estimait que leur arrestation ne répondait pas aux règles de l'art, c'était des condamnations politiquement motivées. C'est pour cette raison que à travers les discussions qui ont eu dans ces pays, les différents dialogues, dialogues de la Cité de l'Union africaine ainsi que les dialogues de la CENCO, on avait insisté sur le fait que ces gens qui étaient considérés comme des cas emblématiques ou en tout cas des gens qui avaient été condamnés pour des raisons politiques puissent être libérés. Ces gens ont été libérés. Maintenant, à partir du moment où on estime que ces condamnations ont été quand même des condamnations basées sur des motivations politiques, lorsqu'on met un tel critère, parce que ces gens ont été condamnés et que la grâce présidentielle n'a pas effacé la condamnation, la conséquence logique, c'est quoi? La conséquence logique, c'est que ces gens, si jamais il était prévu qu'ils soient là, ils seraient écartés.
Merci.
Alors que vous avez aussi d'autres personnes qui appartiendraient à une famille politique, qui effectivement auraient commis des faits répréhensibles pour lesquels ils pouvaient être condamnés, mais parce que le régime leur appartenait et qu'ils se trouvaient dans des conditions telles qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis, ces gens vont faire partie du gouvernement.
Merci, M. Gabin.
Que ceux qui ont été condamnés pour des motivations politiques ne pourraient.
Merci.
Là, ça me pose quand même un problème et je pense que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, pourrait apprécier chaque cas pour dire oui, si on pense que ça va, là, ça ne va pas.
Merci. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Quelle est votre analyse, n'est-ce pas, par rapport à cette étape du processus de la mise en place du gouvernement?
Donc il faut bien souligner plusieurs choses par rapport au débat. C'est que vous devez vous rendre compte qu'on est dans une particularité au niveau de la RDC, c'est-à-dire ici que ce qu'il est en train de faire, on va dire grosso modo, c'est une question de coordination de secrétariat pour essayer de voir un petit peu s'il y a une cohérence au niveau des propositions qui vont arriver, non seulement au niveau de CASH, mais aussi au niveau du FCC. Nous savons très bien qu'il y a un accord entre CASH et FCC qui vont essayer de pouvoir avoir des candidatures, donc des propositions de ministres, d'une part des ministres qui viendront de CASH, d'autre part des ministres qui viendront du FCC. Et vous savez très bien que la Constitution est très claire sur la question de la répartition géographique, sur la représentativité que toutes les provinces doivent être représentées au niveau du gouvernement. Il y a aussi la question du fait qu'il ne faut pas qu'il y ait une province qui soit plus représentée que d'autres, etc. Tout une série de critères comme ça. Or, CASH ne va pas donner sa liste au FCC. Le FCC non plus ne va pas donner sa liste à CASH. Cette liste doit être donnée à quelqu'un qui doit faire maintenant une coordination, une espèce de secrétariat de tri pour pouvoir arriver à faire une synthèse. Et c'est pour ça que le travail qu'il est en train de faire, de mon point de vue, ce n'est qu'un travail, on va dire, de coordination et de secrétariat pour faciliter les options qui vont être prises par le président de la République pour savoir qui va être ministre et qui ne l'est pas. Et la proposition de mettre trois noms pour chaque poste n'obéit qu'à une seule règle. En fait, c'est simplement parce que si, et aussi bien du côté de CASH que du côté du FCC, ils ne savent pas que, par exemple, s'il y a une province qui va être surreprésentée par rapport à d'autres, et le fait d'avoir trois noms avec des origines différentes et des CV différents va permettre, entre guillemets, de faire un équilibre pour pouvoir arriver à avoir le critère de représentativité qui soit respecté. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ce que vous devez vous rendre compte, c'est que pour l'instant, on parle qu'il y a eu un accord CASH-FCC. C'est vrai qu'il y a eu un accord CASH-FCC, mais il y a un élément nouveau. Le Premier ministre l'a rencontré, donc l'autorité morale de l'AFDC, il y a quelques jours. Il est en train de se constituer une recomposition politique au niveau du pays. Donc on a eu dans un schéma, dans un premier temps, qui était un schéma clair, où on avait d'une part la coalition majoritaire qui était CASH-FCC, et de l'autre côté, on avait l'opposition qui est essentiellement composée de la Mouka. Maintenant, avec le phénomène Bahati, on est en train d'assister à la construction d'un nouveau pôle, et ce nouveau pôle pourrait être le pôle centre, qu'on pourrait appeler centre, et qui serait piloté par Bahati. Ça va aussi encore une fois compliquer un peu la donne au niveau de l'accord FCC-CASH et qui pourrait peut-être aussi arriver à retarder la composition et la publication du prochain gouvernement.
Voilà, vous parlez de cette nouvelle donne, la FDCA de Bâti-Loukwebo, et vous parlez du nouveau pôle qu'on pourrait appeler le centre, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait devenir une réalité aussi longtemps que les deux familles politiques qui étaient, n'est-ce pas, associées aux négociations, semblent ne pas être d'accord avec cette nouvelle réalité?
Oui, parce que vous devez, il faut vraiment bien relire l'histoire politique de la RDC. Quand vous relisez l'histoire politique de la RDC, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours eu dans le contexte politique de la RDC trois pôles et pas deux pôles. On a toujours eu un pôle, on va dire, un pôle majoritaire qui serait le pôle, entre guillemets, de ceux qui ont le pouvoir, et vous avez un pôle de ceux qui n'ont pas le pouvoir, c'est-à-dire l'opposition. Mais de tout temps, depuis qu'on vient ce qu'on parle de la démocratisation donc des processus électoraux, des processus donc politiques au niveau de la RDC, et donc il y a toujours un centre qui a essayé de s'affirmer, et ce centre joue soit si les intérêts du centre sont du côté de l'opposition, ils iront du côté de l'opposition. Si leurs intérêts sont du côté de la majorité, ils vont aller du côté de la majorité. Et il ne serait pas étonnant que dans les prochains jours, effectivement, que ce centre se consolide. Parce que n'oubliez pas d'une autre chose aussi, c'est qu'on a déjà publié le nombre de postes à pourvoir. Vous savez très bien qu'une fois que vous regardez uniquement la composition du FCC, vous allez vous rendre compte que beaucoup des membres du FCC vont être des mécontents. Aussi bien au côté du FCC, on aura la même chose aussi du côté de Cash. Beaucoup d'alliés de Cash risquent d'être mécontents par rapport à la composition du gouvernement. Or, ces mécontents et ces frustrés pourraient essayer, dans la mesure du possible, de se retrouver dans le camp que j'appelle le centre, qui pourrait se retrouver tout autour de Bâti et qui pourrait constituer effectivement un pôle assez important qui pourra, d'une façon ou d'une autre, peser justement dans la dynamique politique congolaise. Et le fait, je me base par rapport à cette question, je me base notamment sur la question, par exemple, de vos journalistes, les résultats des élections au niveau du Sénat. On se rend bien compte que Bâti, au niveau du Sénat, a quand même pu capter des voix du FCC pour arriver au score qu'il a été le sien. Par ailleurs aussi, vous avez vu que le numéro 2, c'est-à-dire le vice-président du Sénat, qui était Évariste Bochard, qui est un des piliers du FCC, a été battu par un candidat indépendant, qui est donc Sami Badibanga, même si on peut le qualifier d'obédience cash. Mais cela montre de manière très claire qu'il y a une possibilité qu'il puisse y avoir un nouveau pôle, qu'on ne va pas seulement parler au niveau politique du pôle majoritaire et du pôle opposition, et que progressivement, il va y avoir un nouveau pôle qui pourrait être piloté par Bâti. Alors, contextuellement et historiquement, je peux vous donner toute une série de noms des groupes qui ont essayé justement de pouvoir consolider ce pôle centre. Le cas le plus célèbre, c'est le cas de Kengo Adondo, qui, à un moment donné, qui était de l'opposition, et qui a quitté l'opposition pour créer une plateforme UDI. Cette plateforme UDI est devenue une plateforme centrale, et qui, au fur et à mesure de ses intérêts, soit se disait de l'opposition, soit se disait de la majorité. Et le fait même que Bâti se définit comme faisant partie de la majorité parlementaire, donc vous avez bien compris l'astuce en disant parlementaire et non pas de la majorité comme dans l'ancien système, ce qui veut dire qu'il veut revendiquer effectivement d'avoir une place dans cette dynamique.
Merci.
Et du côté... Oui.
Merci, professeur, nous allons vous redonner la parole. Honorable Dieudonné Mwenze, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Lubumbashi.
Jean de Benel Moulamba depuis Lubumbashi. Pour notre part, nous voulons des œuvres et non des discours sans valeur. Lui-même, le premier ministre, nous parle des gens de bonne moralité. En même temps, il épargne des hommes du FCC sous sanctions occidentales. Ce n'est que la pire distraction. Du moins, nous croyons à la bonne foi du président qui les contraindrait à faire le peuple d'abord.
C'est
un point de vue fondé de notre compatriote de Lubumbashi, mais tout le monde attend que nous puissions avoir de ministres crédibles, intègres et compétents, capables de pouvoir relever les défis de la RDC, mais jusqu'à preuve du contraire, à ce jour, on ne sait pas encore qui est membre de ce gouvernement qui est frappé par les sanctions. En tout cas, on n'en connaît pas puisqu'on ne connaît personne à ce jour comme membre de ce gouvernement. Donc, on ne peut pas déjà faire une appréciation par rapport à ça. Mais du moins, son inquiétude est fondée et sa préoccupation est également fondée. On a besoin des œuvres, on n'a pas besoin des discours puisque le temps du discours est déjà dépassé. Le peuple attend énormément.
Mais comment vous réagissez honorable oui. Mondier, comment vous réagissez à cette analyse de Maître Gabin Oulendou au sujet de ces critères absence de condamnation par une juridiction, une condamnation ferme en RDC ou à l'étranger? Comment vous réagissez à cela? Parce qu'il estime qu'il y a des condamnations qui étaient des condamnations politiques, des condamnations fantaisistes.
Il ne s'agit pas d'un critère qui a été inventé par le Premier ministre. Il s'agit d'un critère qui reste, qui existe à travers le monde. Hein, je crois que c'est connu, et même la Constitution prévoit ce genre de critères pratiquement à tous les postes de responsabilité, et notamment les postes de députés ou de sénateurs, et même des ministres. Il est prévu que ce soit un ministre qui n'a pas de problème avec la justice. Et là, je crois que c'est connu. Mais lorsqu'il se replonge dans le débat de savoir un détenu politique ou pas détenu politique, je crois que ce qui est important et ce qui était important pour le Premier ministre, c'était d'abord de jeter la base du principe. C'est-à-dire le principe, du moins, il est là, et c'est un principe connu mondialement, mais en termes d'appréciation, et d'ailleurs il a mis les bémols sur base de cela, en disant qu'en termes d'appréciation dans le pouvoir discrétionnaire et du chef de l'État et du Premier ministre, ils pourront apprécier ce genre de condamnations. Est-ce qu'il s'agit de condamnations qui n'ont pas eu un fondement normal? Est-ce qu'il y a eu des poursuites peut-être politiques et qui n'ont pas été de droit commun? Je crois que ça c'est l'appréciation qu'il faut laisser au chef. Mais je crois que le principe il est bon et il existe à travers le monde universellement. Il est connu que lorsque l'on accède, on veut accéder à des charges publiques, on doit être le moins réprochable possible. On n'a pas visé des gens. Mais je voudrais aussi qu'on dise que pour ce qui concerne les consultations, ce n'est pas une formalité. Le Premier ministre fait réellement des consultations, même si de son propre chef, il ne peut pas prendre les gens dans les familles politiques. D'ailleurs, c'est ça le sens même des consultations. Il doit attendre que les familles politiques lui proposent les noms des ministrables. Donc, il ne peut pas le faire. Mais quant à ce qui concerne le dossier qu'il connaît ou ne connaît pas, non, le Premier ministre gère réellement un dossier qu'il connaît. Il connaît qu'il existe cash et il connaît qu'il existe FCC. Il connaît qu'il y a un accord entre les deux. Il connaît que les négociateurs lui ont remis tout un dossier et il a dû fouiller le dossier convenablement et maîtrisé. Donc on ne peut pas dire qu'il gère un dossier qu'il ne connaît pas.
Alors par rapport à l'analyse de
maître... Je crois que M. Bass l'a dit clairement. Il n'est pas du centre. Il n'existe pas de centre entre cash et FCC. Nous sommes dans une coalition. Donc, à ce jour, il n'y a pas de centre. M. Bati lui-même l'a dit qu'il appartient à une majorité parlementaire, mais
les profs,
voir comment il va se comporter par rapport à cela.
Le prof Bob a dit qu'on est en train de tendre vers ça, vers la constitution d'une force du centre qui pourrait être l'AFDCA de Modeste Bati.
Oui, mais nous allons le constater, mais du moins lui-même ne le dit pas, puisque s'il faut avoir un centre, c'est-à-dire que ça sera entre, le centre entre la coalition FCC Cash et l'opposition politique peut-être. Cette fois-là, on va dire qu'il n'est ni de la coalition FCC Cash ni de l'opposition politique. Et puis on doit se dire ouvertement les choses, M. Guimaté. Et même ceux qui se disent toujours, qui se sont toujours dit du centre de tout ce temps, en réalité on s'est rendu compte que notre scène politique est bipolarisée et qu'en réalité il n'y a pas de gens du centre. Soit on est à la gauche ou soit on est à droite. C'est tout ce qu'on a vu. Donc même ce qu'on va voir, c'est qu'on trouvera des gens qui sont soit dans la coalition FCC-Cash ou de l'obédience de cette coalition ou des gens qui sont carrément dans l'opposition ou de cette obédience.
Merci. Maître Gabin Oulendou, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Goma au Nord Kivu.
Je suis Hubert Massomeko, à partir de Goma, dans la province du Nord Kivu. Nous n'attendons rien au fait de ce gouvernement et les fantasques d'Idée Tivor, qui est ici des négociations politiques qui ont pris seulement en considération les appétits voraces de ces deux tendances politiques, ayant oublié de loin les aspirations et la vision du peuple congolais, qui a été le plus grand absent de ces négociations. Avec 65 ministères de ce gouvernement, plus le nombre des cabinets, nous sommes dans un gouvernement éléphantesque qui va rafler dans quelques poussières de secondes des budgets nationaux qui est incompatible au nombre de gouvernements.
Maître Gabin Oulendou.
Bon, mais je comprends très bien la préoccupation de M. Hubert, des Goma. lorsqu'il parle d'un gouvernement budgétivore. Et si nous sommes honnêtes et sincères, on doit reconnaître qu'avoir une équipe de 65 personnes, c'est quand même beaucoup. Mais maintenant, il appartient aussi bien au Premier ministre et à Monsieur le Président de la République de trouver des mécanismes nécessaires pour qu'effectivement un tel gouvernement ne puisse pas trop impacter sur les budgets de l'État. Moi, j'ai toujours pensé qu'en pareille circonstance, pourquoi ne pas envisager la réduction des émoluments de ces ministres et vice-ministres compte tenu de la taille du gouvernement. Et deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement que ce soit un gouvernement, des gens qui entrent au gouvernement tout en sachant qu'ils vont créer des moyens pour l'État et pas des gens qui vont consommer les moyens qui existent. Parce que dans la plupart des cas, quand vous avez des gens au sein du gouvernement, ils ne tournent pas leur cerveau pour qu'ils soient capables d'amener beaucoup d'argent à l'État, mais ils viennent pour consommer l'argent qui déjà est insuffisant de l'État. Donc du coup, si nous avons effectivement aussi des gens capables, compétents, avec un esprit de créativité, qui viennent pour renflouer les caisses de l'État par leur savoir-faire, par leurs compétences, eh ben, cela peut compenser cette taille du gouvernement qui semble être élevée. Ce sont là les mécanismes qui, à mon humble avis, existent, s'ils sont exploités, en principe, la taille ne devra pas constituer un obstacle.
Et comment?
Mais si nous avons des gens qui viennent tout simplement parce qu'ils ont des casquettes politiques sans avoir un vrai savoir-faire pour amener du changement en ce qui concerne les ressources de l'État, eh bien, cette taille peut être handicapante.
Et comment réagit le CASH par rapport à la revendication de l'AFDCA de Batiloukwebo, qui estime que l'AFDCA fait partie, en fait, de cette majorité parlementaire et met en exergue aussi son poids politique et que donc il mérite, n'est-ce pas, de participer à ces gouvernements?
Ce que je dois dire à ce sujet, c'est que pour faire partie du gouvernement, il faut venir soit du FCC, soit du CASH, ou en tout cas être soutenu par l'une des deux composantes. C'est clair et net. C'est que si vous n'avez pas le soutien du FCC et que vous n'avez pas le soutien du CASH, il est difficile que vous puissiez accéder au gouvernement. Ça doit être connu. Mais contrairement à ce qui avait été affirmé tout à l'heure par Monsieur Dieudonné Mwenze, que je salue d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui en ce qui concerne le fait qu'aujourd'hui Bahati se retrouverait presque en dehors du système en ce qui concerne son regroupement politique, que ce regroupement politique serait représenté aujourd'hui par une dame qui s'appellerait Néné, etc. Moi, je dis, apprenons à être corrects, apprenons de nos erreurs. Bahati n'est pas membre du FCC. Bahati appartient à un regroupement politique qui lui est membre du FCC. Parce qu'au sein du FCC, vous avez un seul parti politique, c'est le PPRD, vous avez plusieurs regroupements politiques, vous avez des associations et vous avez des personnalités politiques indépendantes. Si Bahati était dans le FCC en tant que personnalité politique indépendante, la suspension ou l'exclusion de Bahati aurait tout son sens. Mais Bahati n'est pas membre du FCC. Bahati est membre d'un regroupement qui, lui, est membre du FCC.
Alors, cela veut dire quoi, M. Gabin?
La logique la plus élémentaire, je termine mon raisonnement, la logique la plus élémentaire qui puisse exister, serait de suspendre ou d'exclure le regroupement dont Bahati est président, et après maintenant demander qu'à l'interne il trouve une solution pour savoir qui est censé représenter le regroupement, etc. Mais aujourd'hui, quand on nous dit que non, bon, Bahati n'est pas là, juridiquement, c'est Bahati qui engage le regroupement qui, lui, demeure dans l'FCC.
Merci.
C'est ça l'aberration juridique qui a été commise au
sein du FCC. Merci, M. Dabin. Merci, professeur Bob Kabamba. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kananga.
C'est Évariste Kabadi à Kananga. Le Congo pourra bien marcher avec ce gouvernement qui ne sera pas constitué de personnes sanctionnées tant qu'au niveau national qu'international. Les Congolais attendent au gouvernement des femmes et des hommes capables pour la reconstruction d'un pays digne de son nom, qui est surtout constitué de guerres à l'est du pays.
Professeur Bob Kabamba.
Oui, c'est une bonne question, mais il faut bien se rendre compte que la décision de savoir qui sera ministre et qui ne sera pas ne dépend pas, on va dire, des prétentions des uns et des autres, mais ça dépend essentiellement, de ce que j'ai cru comprendre, quand même de la dynamique politique qui va avoir lieu entre
d'une part le cash, au sein du cash, d'autre part au sein du FCC. Sur la question des sanctions, donc il faut essentiellement voir que c'est des personnalités qui concernent donc le FCC qui sont visées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont sanctionnées par la communauté internationale pour avoir une série de faits, et que ces personnes, si elles sont leur parti politique décide de pouvoir les présenter au niveau des candidatures pour aller au gouvernement, en fait c'est le choix du FCC de pouvoir le faire. Et là, je ne sais pas si le président Félix Tshisekedi a le droit de refuser quelqu'un qui est sanctionné au niveau international. En fait, il faut bien se rendre compte qu'une sanction au niveau international n'est pas une condamnation, de ne pas pouvoir être ministre. Tout ça, ce sont des aspects politiques sur lesquels les deux leaders que sont pour l'instant Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, s'ils se sont mis d'accord en disant que non, dans les 10 critères, on essaie de mettre que des gens fonctionnels ne peuvent pas être au gouvernement, là, effectivement, on peut le penser. Mais quand on lit les critères, il n'y a pas les critères de sanctions au niveau international.
Oui, professeur, on a vu comment les deux familles ont mené les négociations avec beaucoup de détermination. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir dans ces gouvernements des personnes qui se sentiront, n'est-ce pas, redevables plutôt vis-à-vis de certaines personnalités? C'est-à-dire que vous avez un gouvernement où vous avez d'un côté des ministres qui font allégeance au chef de l'État et de l'autre ceux qui feront allégeance, n'est-ce pas, à l'autorité morale du FCC.
Tout à fait, mais c'est tout à fait ça qu'on va arriver à avoir. C'est-à-dire que avec la dynamique actuelle qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on vient de se mettre en place, les dynamiques politiques vont être beaucoup plus en dehors de la structure du gouvernement. C'est-à-dire que les dynamiques vont être plus en dehors qu'au sein du gouvernement. Et même le fonctionnement du gouvernement va dépendre toujours beaucoup plus des dynamiques en dehors plutôt que des dynamiques au sein du gouvernement. Et si vous revenez un peu en arrière, vous allez vous rendre compte que le fait d'avoir choisi Ilunga comme Premier ministre, parce que tout simplement c'était le plus petit dénominateur commun par rapport à toute une série de critères qui étaient définis entre les deux. C'est-à-dire que le travail de Premier ministre va être essentiellement un travail justement de coordination et d'harmonisation de points de vue qui seront développés par la dynamique extérieure du gouvernement.
Merci.
Et donc les gens qui vont être nommés à ce gouvernement vont plus dépendre effectivement des dynamiques en dehors plutôt que des dynamiques au sein du gouvernement.
Merci. Dieudonné Mounzé, on va conclure. Comment vous entrevoyez la suite de ces consultations?
J'entrevois une suite heureuse et je confirme que M. Bahati n'est pas membre du FCC. C'est le regroupement AFDCA qui est membre. Ça renforce ma position de dire que l'AFDCA est encore aujourd'hui dans le FCC et qu'il était demandé à ce regroupement de remplacer celui qui représentait le regroupement au sein du FCC et dans ce que nous avons appelé la conférence de président.
Merci.
Par quelqu'un d'autre qui ne pouvait pas être sous les sanctions du FCC.
Merci. Donc, Maître Gabin Loulendou, comment vous entrevoyez la suite de ces consultations? On a appris qu'il y aurait même une sorte de guerre entre l'UNC et l'UDPS au sujet de la répartition des 23 postes au gouvernement.
Mais je souhaite une suite heureuse pour ce gouvernement parce qu'il faut régler le problème des Congolais. Le Congolais et les Congolaises souffrent. On doit apporter des réponses adéquates à leurs problèmes. Concernant la rumeur, non, je tiens à vous rappeler, en tout cas à vous dire que l'UDPS et l'UNC s'entendent merveilleusement bien. Les négociations se poursuivent entre les deux et des solutions vont être trouvées. Donc il n'y a pas de quoi qu'entre l'UDPS et l'UNC.
Professeur Bobkabamba, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que le gouvernement va être mis en place, mais malheureusement, ce gouvernement va plus travailler avec des dynamiques duales, la dynamique qui sera pilotée d'une part par Félix Tshisekedi et d'autre part par Joseph Kabila.
Et par rapport à ces critères de nouveaux visages au sein de ces gouvernements, quand on sait qu'autour des autorités morales du FCC, c'est des anciens visages qui sont autour de ces autorités morales?
Malheureusement, si le FCC veut garder une certaine autonomie, veut garder une certaine cohérence, une certaine force, le FCC se retrouvera obligé de pouvoir mettre justement la vieille garde, la vieille garde qui va amener à ce qu'il y ait une certaine consolidation.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui est à la technique et merci à Donna Madimba et Geling Kouté qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.